Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Lindy Lou, jurée numéro 2, raconte l'histoire d'une femme qui part à la recherche des 11 jurés avec lesquels, 20 ans plus tôt, elle a condamné à mort un homme pour un double meurtre. L'homme a été exécuté depuis longtemps, mais Lindy Lou ne s'en remet pas, elle ressasse, elle se sent coupable, responsable, c'est une tâche dans son existence. Alors avec sa voiture, elle parcourt plusieurs états du sud de l'Amérique pour interroger ceux qui, comme elle, à l'époque, ont prononcé la peine capitale à l'unanimité. Elle leur demande s'ils ont eu des doutes, ont été habités, hantés par cette décision sur laquelle on ne revient pas. Avec une persévérance qui vire à l'obsession, une patience qui en dit long sur tout ce temps passé à ruminer, elle frappe à la porte de chacun avec ses questions. Qu'avez-vous ressenti? Y avez-vous repensé? Comment vous êtes-vous comporté avec les autres? En avez-vous parlé autour de vous? Et si c'était à refaire? Certains ne s'en sont guère préoccupés, d'autres réagissent mal, d'autres encore s'interrogent avec elle. Le talentueux réalisateur de ce film, Florent Vassaux, l'encourage visiblement dans sa démarche et propose un très étonnant road movie à travers la bonne et la mauvaise conscience américaine que je vous recommande. Mais le film décolle vraiment quand on comprend que Lindy Lou, jurée numéro 2, est entrée en contact avec le condamné avant qu'il ne soit exécuté. Elle lui écrit d'abord, puis elle lui rend visite régulièrement dans les couloirs de la mort, au point de devenir, sinon une amie, en tout cas une proche. Le film questionne donc la peine de mort, mais aussi le rôle des jurés, les limites de leur capacité à juger des affaires criminelles, la complexité de leur expérience, leur culpabilité éventuelle. En France, heureusement, la peine de mort n'existe plus, mais les jurés ont aussi des histoires, plus ou moins douloureuses, des cas de conscience, des remords, comme le raconte Claudia Prolongeau. Tout de suite, ce sont trois récits.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis Pierre-Marie Abadi, j'ai 73 ans et j'ai été juré. J'ai été tiré au sort pour 4 procès d'une même session d'assises. 3 affaires de viol, dont une concernait une affaire d'inceste et une affaire de meurtre, un assassinat. Pour le quatrième procès. Et c'est ce quatrième procès qui m'a le plus marqué. Le dernier procès semble, en tout cas dans son thème, banal. C'est le meurtre de la maîtresse du mari par l'épouse légitime. Le meurtre s'était produit avec une férocité extrême, puisque les policiers avaient noté que la pièce où le meurtre s'était produit était badigeonnée de sang du mur au plafond. Et donc les jurés avaient aussi vu des photos terribles. Et puis, ce qui m'a marqué, c'est que nous étions dans un procès en appel. Et c'est une affaire qui avait été traitée en première instance. Et l'accusé avait eu une sanction de 5 années de prison. Face à ces 5 années de prison, le parquet avait estimé que c'était insuffisant. Et c'est le parquet qui a fait appel. Et donc j'étais juré lors de ce procès d'appel. C'était l'époque, et je le souligne beaucoup parce que ça compte beaucoup pour les procès d'assises. C'était une époque où on parlait d'identité nationale, on parlait de ce qui pouvait caractériser l'esprit français. Il y avait comme ça dans les médias, un long débat sur l'identité française. Parce que d'abord, la meurtrière, l'épouse légitime, était étrangère. Et surtout, elle était dans une extrême solitude à Paris. Une extrême solitude, elle n'avait ni relation, elle parlait très peu le français, ni parents, ni association qui s'occupait d'elle. Elle était avec son mari, et son mari était un homme odieux. Mais quand on dit un homme odieux, on est bien en dessous de la vérité. C'était un homme infâme qui faisait vivre sa maîtresse au sein du domicile conjugal, où il invitait ses petites amies aussi. Et surtout, il avait fait devenir cette personne l'esclave. Et donc cette femme, toute seule, isolée, faisait les tâches les plus immondes, les plus horribles, les plus avilissantes qui soient pour ce couple. Donc l'accusée était dans le box, elle semblait complètement perdue. Elle était dans une infinie solitude. Infinie solitude parce que, au fond, elle avait tout le prétoire contre elle. Et je l'ai eu en pitié. Parce que ça m'a touché, si vous voulez. Ça m'a touché aussi par le fait que le vrai responsable qui était présent au procès était le mari, qui avait créé une situation diabolique. Et il y a eu un passage à l'acte, évidemment infiniment répréhensible, mais passage à l'acte qui a été, à mon avis, téléguidé par toute la situation intenable, impossible, inhumaine, tellement avilissante, qui pouvait ne se terminer que par une déflagration de cette nature-là. Moi, je me disais, pour la juger une deuxième fois, nous allons avoir des faits nouveaux, des pièces nouvelles, des témoignages nouveaux qui pourront infléchir dans un sens ou dans l'autre le verdict du premier jury. Il n'en a rien été. Et nous avons condamné cette personne au double de la peine, c'est-à-dire à 10 ans de prison. 10 ans de prison pour une personne qui avait vécu un enfer pas possible pendant des années, qui avait rien connu de la vie. Non. Nous, notre société, la condamnait à 10 ans de prison. Et ça, si vous voulez, j'en ai ressenti un profond sentiment de culpabilité, parce que la décision est collective, elle est celle d'un jury, elle est celle de l'équipe dans laquelle j'appartenais, où il y avait 3 magistrats et 6 jurés. Elle est donc ma décision, forcément. Et donc, face à cet événement qui me contrariait fortement, j'ai pas été bien du tout pendant des jours, et je l'ai fait supporter à mon milieu familial, ce qui est terrible d'ailleurs. Et je me suis beaucoup plaint de ne pas avoir eu une assistance psychologique après ces 4 procès, et notamment après celui-là. J'ai laissé le procès faire ces ondes de choc peu à peu en moi pendant quelques mois. Ma présence à ces 4 procès m'ont fait beaucoup de mal. J'ai eu du mal à m'en sortir. Alors, quelques mois après, je me dis, je devrais écrire à l'avocate qui a défendu cette personne. Quand j'ai contacté l'avocate, j'avais pour arrière-pensée d'aller voir l'accusé en prison. Alors, j'avais bien conscience qu'un juré qui allait voir quelqu'un qu'il avait condamné en prison, c'est quelque chose qui était tout près de la ligne jaune, tout près de choses qu'on ne fait pas, tout près du répréhensible. Donc, quelques mois après, j'écris à cette avocate et elle me répond. Et dans cette lettre, elle me dit un petit peu de manière itérative, « Surtout ne faites pas ça, n'allez pas voir l'accusé. » Elle ne comprendrait pas. Elle ne comprendrait pas qu'un juré qui l'a condamné vienne en prison comme ça, lui dire « Mais vous allez voir, ça va vite se passer, je suis venu vous porter quelques oranges et quelques friandises. » Elle ne comprendrait pas. Ne faites pas ça. Devant ce refus, j'ai téléphoné à l'avocate et nous avons échangé sur ce cas. De cette espèce de dialogue au téléphone, nous avons décidé d'en faire un livre. Et pour elle et pour moi, ce livre était une thérapie, parce qu'au fond, à partir de là, on a essayé de montrer comment une décision de justice peut arriver à ce qui nous semble une décision non juste, inéquitable. Voilà. Thank you.
Je m'appelle Lydia, j'ai 47 ans. Il y a 12 ans, j'ai été jurée, le juré numéro 6, dans un procès en appel qui était l'affaire dite de pédophilie d'Angers. La plupart des accusés étaient des parents qui prostituaient, qui prêtaient leurs enfants pour avoir en retour un peu d'argent, un paquet de cigarettes, un pneu de voiture, etc. Lorsque je suis tirée au sort le vendredi 2 février 2007, je sais que le début du procès va vraiment commencer le lundi suivant, donc le 5 février 2007. Une fois que la séance du vendredi a été ajournée, on nous a expliqué que ça allait être quelque chose de difficile, de long. Là, je réalise vraiment que je suis là au moins pour 10, voire 12 semaines. Le président ainsi que les assesseurs nous présentent un certain nombre de choses et nous expliquent que, vu la teneur du procès, nous risquons d'avoir des conséquences donc sur notre humeur. Notre humeur peut être perturbée, notre libido également, puisque nous parlerons d'affaires sexuelles et que nous entendrons des choses qu'on ne peut pas forcément imaginer et que ça perturbera forcément notre sommeil, nos comportements avec nos enfants, notamment au moment de leur donner le bain. On nous précise vraiment que si ça se produit, ce sera normal, puisqu'on ne sera pas dans un contexte normal. Donc lorsque le procès commence, j'ai un peu plus de 36 ans, mon fils a 9 ans et demi à peine, et nous vivons tous les deux, puisque nous nous étions séparés, son père et moi, en mai 2006. Donc là, on est en février 2007, ça fait pas un an qu'on vit tous les deux, et c'est pas toujours simple parce qu'il n'est pas toujours facile. Et au quotidien, la vie est bien différente de lorsque je travaille. Chaque matin, je peux emmener mon fils à l'école. Les audiences ne commencent qu'à 13h30. Donc petit à petit, je me construis un autre rythme. Et les jurés, mes co-jurés deviennent rapidement des confidents. On apprend très vite à se connaître. Je pense que le contexte fait que on va parler de nous-mêmes beaucoup plus vite que si on était avec des collègues de travail dans un autre environnement. En tant que fumeuse, un midi avant d'aller au tribunal, je me suis arrêtée pour acheter un paquet de cigarettes. Dans le café se trouvaient trois de mes co-jurés qui m'ont vu et qui m'ont fait signe de venir les rejoindre. À partir de ce jour, tous les jours, je suis allée les rejoindre. Je n'avais pas forcément de cigarettes à acheter, mais tous les jours, on se retrouvait, on buvait un café, parfois on mangeait un sandwich, on buvait un petit verre, ça dépendait. Et c'était une bonne équipe, on était tous les quatre, on arrivait ensemble, tout le monde se faisait la bise, et puis une fois que ça commençait et que le président avait dit la cour, tout le monde s'asseyait à sa place, et c'était parti pour l'après-midi, jusqu'au soir, où parfois on restait traînés devant le palais de justice. On était vraiment dans une ambiance de camaraderie. Au début du mois d'avril 2007, donc le dernier mois du procès, donc 2 mois après le début, il y avait eu le carnaval des enfants. C'était un mercredi et l'un des garçons avait acheté un paquet de confettis. Alors je pense qu'au départ, il voulait l'emmener pour ses enfants et en fait, on était tous de bonne humeur. Le procès avait peut-être été un petit peu moins compliqué puisqu'il y avait des jours où, selon ce qui était abordé, c'était un peu plus simple, on va dire. Et ils ont voulu jouer avec les confettis. Ça a très mal tourné parce qu'en fait, on s'est bagarré comme des enfants sur le pont qui relie le tribunal au parking où ils étaient garés. Et j'avais l'impression d'être une gamine qui venait de s'amuser, alors que quelques heures plus tôt, j'étais dans un tribunal. Et lorsque je me suis déshabillée, j'ai vu que j'avais des confettis partout. Et j'ai reçu un message qui me demandait si j'avais pas trop de confettis. Donc j'ai très vite compris qu'il s'agissait d'un des jurés. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à nous envoyer des messages en dehors du procès. Le soir, savoir comment s'était passé le week-end, si ça allait, et si demain on se revoyait bien au café. Voilà. Suite à un pari, nous sommes allés dîner ensemble et nous sommes embrassés. Donc là, la situation, c'est un peu compliqué pour moi. Je me suis rendu compte que ce garçon me plaisait. C'était bizarre. J'en ai parlé à une amie, puis à une deuxième amie. J'en ai parlé à ma sœur également. J'ai pas vraiment eu de commentaires, mais j'étais pas très à l'aise avec l'idée. Je pense que c'est pour ça que j'en ai parlé un peu autour de moi. Et puis, les choses n'étaient pas normales. Le contexte, je pouvais pas me dire que je pouvais être attirée par un homme dans un contexte comme celui dans lequel j'étais. Le procès était vraiment quelque chose de terrible. Une histoire de sexe avec des enfants, je pouvais pas vivre ça et en même temps penser à ce que je pouvais éventuellement ressentir moi de mon côté. Il a fallu vraiment que je prenne sur moi, j'avais l'impression que c'était écrit sur mon front, qu'il se passait quelque chose avec ce juré. Je pense qu'ils l'ont tous compris assez vite, mais on n'a pas eu de réflexion. Je pense qu'aussi, on était suffisamment adultes pour gérer ça, mais c'était plus le regard que j'avais sur moi-même qui me préoccupait, je pense. Finalement, les choses se sont plutôt bien passées. Ça fait 12 ans bientôt maintenant que nous sommes ensemble, chacun chez soi. Il est entré dans ma famille comme je suis entrée dans la sienne et j'oublierai jamais tout ce qui s'est passé dans ce procès, ni les enfants, ni les accusés. Je pense que je garderai toujours un souvenir très douloureux de tout ça, mais j'ai aussi rencontré l'amour pendant ce procès.
Alors donc je m'appelle Christian Verrier, j'ai 63 ans et demi. En 25-26 ans, j'ai été cheminot, conducteur de train. Et encore avant ça, j'ai été un cancre rédhibitoire à l'école. Et j'ai commencé en fait des études sur le tard, ce qui m'a permis de passer une thèse et de devenir maître de conférence ensuite, à l'âge de 36-37 ans à peu près, quelque chose comme ça. J'ai été tiré au sort trois fois, sur les listes électorales de ma commune. Une première fois est restée sans suite, hein, comme ça arrive le plus souvent d'ailleurs, hein, pour les tirages au sort. Quant aux deuxième et troisième fois, là j'ai effectivement été convoqué pour une session de cour d'assises. Alors les statistiques en fait sont très très éloquentes, hein, quant à la fréquence, hein, sur les 47 millions à peu près d'inscrits sur les listes électorales, chacun d'entre nous, chaque citoyen et citoyenne a moins d'1% de chance d'être tiré au sort. La toute première fois, lors du premier tirage au sort, je me suis dit, et j'étais dans une période de ma vie où j'étais plutôt curieux, hein, encore curieux de comment pouvait fonctionner un procès d'assises. Cette première fois n'ayant pas eu de suite, lors de la deuxième fois, j'étais beaucoup plus réticent. Et là, donc, avec peut-être 10 ans de plus, là, je ne voulais plus y aller. Je ne voulais plus y aller. Et là, j'avais peut-être été aidé par mon parcours militant à Amnesty International, où j'avais travaillé beaucoup la question de la peine de mort, puis un peu sur la justice en général. Là, j'ai fait du chemin et je ne suis plus du tout favorable à l'idée de juger mon prochain, et encore moins favorable à l'idée d'éventuellement l'envoyer en prison. Donc là, je me rends effectivement au début de l'audience de la session des assises à laquelle je suis convoqué. D'ailleurs, la greffière, lorsque vous arrivez, c'était une greffière, demande à chacun des jurés s'il désire déposer une demande de dispense. Ce que je fais. Et elle demande pourquoi vous voulez une dispense. Généralement, ce sont des motifs qui invoquent des raisons professionnelles, quelque sorte, et puis souvent aussi des motifs médicaux. Mais moi, c'est pas du tout ça, quoi. Moi, c'est pour des raisons morales, pour des raisons philosophiques, éthiques, voilà. Donc, je demande ma dispense. Et là, donc, la mienne est accordée. Et vous pouvez partir. Et alors, je suis tiré une troisième fois au sort, 10 ans plus tard, l'année dernière, en 2017. J'arrive aux assises dans des conditions identiques à la fois précédente, exactement. Et d'ailleurs, c'est même la même salle. C'est même la même salle du tribunal. C'est étonnant. À la même barre des témoins, puisque vous devez vous avancer au pied de la cour qui est tout là-haut, quoi. Et je fais valoir exactement les mêmes arguments que la première fois. Même processus. La cour se retire, délibère, revient, et là, me refuse ma dispense. Donc, à quoi je m'expose si je ne reviens pas demain? Et la réponse, c'est 3750 euros d'amende. J'ai dit oui, c'est ce qu'il y a déjà écrit sur la convocation si je ne viens pas. Il me dit oui, c'est ça, 3750 euros d'amende. Bon. Alors, si demain je reviens, mais que je ne prête pas serment, parce que ce serment, je le trouve mal fichu, même si chacun trouve qu'il est bien. Moi, c'est pas mon avis. Bah, également, 3750 euros d'amende. Voilà, alors je rentre ici, et dans un sentiment un peu d'échec, quoi. Et avec la question majeure de savoir, mais bon sang, que fais-je demain? Première option. J'y retourne demain en acceptant d'être juré. Hein, et là, en quelque sorte, j'accepte de me plier à la logique judiciaire. Ou bien j'y retourne pas du tout, auquel cas je suis condamné à 3750 euros d'amende. Ou encore, j'y retourne, mais en traînant les pieds, quoi, en essayant de faire valoir à nouveau mon refus. Et moi, c'est le choix que je fais le soir, c'est-à-dire d'y retourner le lendemain, mais de refuser de prêter serment, et donc très probablement d'être condamné. Mais en tout cas, je ne serai pas juré. Mais j'adresse une lettre à la présidente, avec par avance un chèque représentant le montant de ma condamnation. Sachez par avance que je refuserai de prêter serment. En effet, j'ai pris connaissance de ce texte, et en toute honnêteté, si on le lit bien attentivement mot à mot, il requiert des qualités que je ne possède pas, et je ne pourrais juger sans me parjurer ensuite, y compris involontairement. Ce que je ne souhaite ni pour l'accusé, ni pour la cour, ni pour moi-même, bien entendu. Vous savez également, depuis hier, quels seraient mes votes en délibération, et il serait vraiment malvenu pour tout le monde que je risque de siéger pour de bon. Je serais peut-être capable de juger une personne en fonction de la loi, mais certainement pas en fonction de ce qu'est profondément un être humain, c'est-à-dire un insondable mystère. Sur le fond, je suis inapte à juger qui que ce soit. D'autres en sont capables, je leur laisse ma place, etc., etc. Alors, comment se passent les choses après que j'ai eu remis cette lettre? La présidente, donc, me fait revenir le chèque. Et lorsque mon nom arrive, en tant que premier juré suppléant, elle me demande si je refuse toujours de prêter serment. Et je dis oui, effectivement, je refuse de prêter serment. Et l'avocate générale requiert 3750 euros d'amende, c'est-à-dire la peine maximale prévue par la loi. La présidente délibère très rapidement et elle approuve donc la demande de l'avocate générale qui, à ce moment-là, prononce contre moi la condamnation totale, avec lecture totale de la condamnation. Et je ressors donc du tribunal avec cette amende à régler de 3750 euros, le maximum pour ce cas-là, et aussi avec un casier judiciaire pour 40 ans, Et là, vraiment, on m'a retrouvé un casier judiciaire, c'est quelque chose qui m'ennuie profondément, presque plus que l'amende. Presque plus que l'amende, je ne m'attendais absolument pas à ça, vraiment pas du tout à ça la veille. Je pensais toujours qu'un petit miracle allait se produire, en quelque sorte, vous voyez. Parce que l'article de loi précise bien qu'une personne dans mon cas peut être condamnée. Elle peut très bien ne pas être condamnée. Je suis toujours dans l'interrogation. Je crois que je ne saurais jamais si j'ai eu absolument raison ou absolument tort. Est-ce que ma présence aussi dans un jury aurait pu servir la société en même temps que la personne inculpée ? Quel aurait pu être mon rôle positif dans ce que j'estime être du négatif ? Et ça, j'ai pas de réponse, quoi. J'ai pas de réponse. Ce que je sais, au moins, c'est que on ne peut pas contraindre quelqu'un à juger quelqu'un d'autre. Vous voyez, surtout quand il s'agit de condamner quelqu'un. Si c'était à refaire aujourd'hui, le hasard m'en préserve. J'en ferais la même chose, oui. Mais j'en ferais tout à fait la même chose, absolument. Oui, tout à fait.
Giant rainbows light up the sky, up the sky, up the sky. Thunderbolts are flashing up and down, down and up, up and down. Every cloud has got a silver lining, silver lining, silver lining. Flying tigers pushing back the edge.
C'était Des histoires de jurés, un reportage de Claudia Prolongeau réalisé par Cécile Lafont. Merci à Marie-Pierre, à Lydia, à Christian et à Claudie Brouillet. Jeanne Delecroix, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Camille Richir, c'est notre stagiaire.
Giant rainbows light up the sky, up the sky, up the sky. Harmony and sunshine and the light, and the light, and the light. The blacktop, the desert and the stars, in the far, in the far. The flaming tigers pushing back the edge. The spinning sun is up in flight. Dust arises, blood shining all around me in the sky.